Congo,
prions pour eux. Vous savez ce qui se passe, eh bien, à l'Est, hein? Il y a la guerre à Goma. Prions afin que Dieu, là aussi, intervienne. Que Dieu, eh bien, puisse solutionner. Et c'est vrai, comme ce psaume 2, pourquoi ce tumulte? Seigneur, c'est vrai que souvent, eh bien, Dieu laisse pendant un certain temps, mais quand il va agir, alors vaut mieux pas être près de lui, dans ses souliers, parce que les jugements vont tomber. Alors pensons à eux, et que le Seigneur, eh bien, les fortifie, les bénisse. On devrait y aller à Goma, mais vous savez que Dieu chapeaute tout. Alors prions. Merci aussi pour, eh bien, la sœur qui a porté ce beau bouquet de fleurs, hein, c'est vrai, ou le frère, hein, je ne sais pas, hein. Et ça embaume, c'est vrai. Ah, c'est artificiel. Ah, ben vous m'avez trompé là. Ah bon? Ah ben mince alors. Eh ben vous alors, vous apportez des fleurs artificielles. Eh, mais de la chaise, je me suis dit, dis donc, hein. Vous voyez comme c'est trompeur. Mais à Dieu, on ne peut pas le tromper. Non, je n'ai pas remarqué. Il y a peut-être qu'il est là-bas, je ne sais pas. Mais je viens pas assez, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui. Ne soyons pas, frères et sœurs, des chrétiens artificiels. Mais soyons des fils et des filles des chrétiens qui vivent la vie de l'Esprit. Et c'est vrai qu'au travers, eh bien, des psaumes que notre frère a lus, je pense qu'il y a, n'est-ce pas, une suite. Et ce matin, eh bien, la pensée du Seigneur, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Quoi que nous puissions penser, quoi que nous puissions émettre, quoi que nous puissions vivre, Dieu est souverain. Il est le maître de chaque chose. Rien ne lui échappe. Rien. R-I-E-N. Souvent on dit, ouais, mais Dieu ne s'occupe pas, ou le diable vient nous dire, mais laisse tomber, tu vois bien, regarde dans quel pétrin tu es, regarde, eh bien, tu pries, et puis rien ne s'y passe, etc., etc. Ça fait combien de temps? Mais Dieu est souverain. Et en son temps, il agira. Ce n'est pas ce que les grands de ce monde disent ou pensent. C'est ce que Dieu dit qui aura de l'impact. Et c'est vrai que l'être humain est souvent influencé par les choses que nous voyons, que nous entendons, et aujourd'hui, au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, etc., etc. Combien de personnes, que ce soit extérieures ou même intérieures chrétiens, sont troublées. Dieu est souverain. Il a une position suprême qui est au-dessus de tout. De tout. Au-dessus de lui, il n'y a plus rien. Le diable est, n'est-ce pas, en bas. Il a été détrôné, il a été jeté, c'est vrai que, eh bien, son royaume, c'est ici. Il essaiera par tous les moyens, eh bien, de confondre, d'amener le doute, la crainte. Est-ce réellement vrai ce que Dieu a dit? Tu vois bien que rien ne s'y passe. Et au contraire, on parle de paix, mais il y a de plus en plus de guerres. Et il y a de plus en plus, eh bien, d'industries, d'armement. Vous savez que la France, eh bien, son économie pour l'industrie militaire, de guerre, a augmenté, hein. Et puis ça y va, hein. Dieu se rit de tout cela. Il laisse. Mais l'Église, le peuple de Dieu, qui lui prie. Comme il priait pour Pierre qui était dans la prison. Il priait, mais quand Dieu va délivrer Pierre, il ne s'attendait pas à le voir à la porte. Frères et sœurs, et je crois que nous sommes dans ce temps où le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, veut que nous soyons stables, que nous soyons équilibrés, que nous puissions eh bien savoir sur, excusez-moi l'expression, quel pied on marche. Parce que le Saint-Esprit, il montrera toujours la voie de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. La souveraineté, une autorité suprême. C'est une qualité de ce qui est sans appel. Et c'est vrai que je crois que dans les temps que nous vivons, qui nous sont alloués, le Seigneur veut élever chacun d'entre nous dans les sphères de l'évangélisation, d'être ses témoins. Et par le Saint-Esprit, il veut, eh bien, nous donner. Alors, bien sûr, on va lire quelques passages de la parole de Dieu, de voir comment Dieu agit, comment, eh bien, le Seigneur, par le Saint-Esprit, prend les choses afin de connaître, de savoir que son but, c'est sa gloire. Non pas la nôtre, mais la sienne. Parce que nous sommes des co-ouvriers, co-équipiers, travaillons avec lui, et le Saint-Esprit est là pour nous donner, eh bien, tous les moyens nécessaires dont nous avons besoin. Sans le Saint-Esprit, il nous manquera quelque chose. C'est pour cette raison que Jésus a dit, allez à Jérusalem et attendez. Alors que ce matin encore, le Saint-Esprit puisse nous renouveler dans les dons, dans tout ce qu'il nous a donné, afin que de plus en plus nous devenions bouillants. Amen. Pourquoi, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur fera un reproche à cette Église? Parce que tu es tiède, je te vomirai. Mais avant d'être tiède, cette Église était bouillante. Les chrétiens étaient bouillants. Et c'est vrai qu'on peut, pendant ce laps de temps, eh bien, prendre des aises, s'asseoir, avoir nos habitudes, etc. Et on se dit, eh bien, va comme on te pousse. Non! Nous nageons à contre-courant. Il y a le courant de l'iniquité. Nous nageons à contre-courant. Seigneur, renouvelle mes forces physiques, mais aussi spirituelles, afin que, jour après jour, je puisse faire les progrès que tu désires. Non pas que je désire, mais toi. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, je vous invite à lire au chapitre 9, Actes des Apôtres, chapitre 9, on fera de nombreuses lectures dans le livre des Actes des Apôtres qui vont nous montrer comment Dieu va intervenir avec, eh bien, cet homme qui s'appelait Saul, mais son nom sera changé en Paul. Vous savez que Paul veut dire petit, hein? Paul veut dire petit. Bien qu'il a été appelé, eh bien, appris au pied de Gamaliel, bien qu'il pouvait avoir tous les diplômes nécessaires dans la loi pharisaïque, quand il a été transformé, eh bien, il est devenu l'un des missionnaires le plus, eh bien, aimant, mais aussi docile entre les mains de Dieu. Alors, Actes chapitre 9, on va lire à partir du verset 1er. Saul, respirant le massacre et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voilà sa pensée première, c'est de ramener eh bien, tout cela à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il restera 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anania !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» C'est formidable, hein ? Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Oh ! Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Dieu est précis, hein ? Nous voyons la précision. Ananias va répondre, « Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et ici il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Seigneur, tu te trompes. Tu te trompes de personnage. Non, ce n'est pas possible. » Mais au début, il a dit, « Me voici, Seigneur. » Et quand le Seigneur va lui dévoiler sa mission, ah ! Étonnement. Est-ce que cela ne nous arrive-t-il pas aussi ? Je suis prêt, Seigneur, à faire tout ce que tu veux. Pierre pourra dire, « Même mourir avec toi. » Et Jésus dira à Pierre, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Bien sûr, de la parole de Dieu, nous avons maintenant la solution. Pour quelle raison ? Et là, nous voyons de même que ce que Dieu fait, il le fait pour un but glorieux. Et c'est vrai qu'il va prendre, eh bien, cet homme Anania, à la place d'Anania, mettez votre nom. Et si Dieu, eh bien, vous appelle pour faire telle et telle chose, telle mission, parler à telle personne, n'ayez pas d'arrêt, ne bloquez pas, mais dites Seigneur, avec ta grâce, avec le secours de ton esprit, eh bien je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui me mettras les paroles nécessaires dans mon cœur pour ma bouche. Jésus dira, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Et c'est vrai que souvent, eh bien nous discutons comme Anania. Mais le Seigneur lui dit, va. Bien sûr, c'était un homme cruel, Saul de Tarse, un homme orgueilleux, prétentieux, vaniteux. Mais qui c'est qui transforme les cœurs ? Qui c'est qui, eh bien, ramollit ? Qui c'est qui fait fondre ? Qui c'est qui brise ? Sinon, le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous qui, eh bien, pouvons transformer une personne, mais c'est le Saint-Esprit au travers de nous qui va la transformer, alléluia. Et c'est pour cette raison que, eh bien, Anania va plier le genou et il va dire, voilà, oui, ok, et il va y aller. Mais le Seigneur lui dit, au verset 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dieu va lui déployer tout le programme pour la vie de son nouveau serviteur, l'apôtre Paul. Et vous lirez la suite, bien sûr. Anania, que va-t-il faire? Il va dire « mon frère ». La transformation. Le deuxième passage que nous pouvons lire, c'est dans Actes au chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Nous lisons ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne le comprends pas, je ne saisis pas. Nous voyons, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, c'est elle qui gère. C'est elle. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, d'aller en Mysie. Nous voyons, frères et sœurs, ces hommes sensibles, la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que tu es sensible? La sensibilité. En chaque chose, le Saint-Esprit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que je suis, moi, à l'écoute? Non pas avec mes oreilles physiques, mais avec les oreilles de mon cœur. La sensibilité. Il y a des fois, c'est vrai, excusez-moi, cet exemple que j'ai vécu dans une des assemblées. C'est vrai que le chef, le dirigeant, il a son programme pour les chants. Et il y avait une telle onction du Saint-Esprit qu'au lieu de laisser l'action du Saint-Esprit se manifester, il continuait son programme. Vous réalisez ? Il y a des fois où le Seigneur veut nous bousculer et laisser l'action du Saint-Esprit agir. Alors bien sûr, après, on a eu une rencontre, et il a dit, mais moi j'ai mon programme, j'ai mon temps, je ne peux pas de dépasser de X minutes. C'est grave, c'est dramatique. Alors, les frères ont dit, mais tu aurais dû laisser. Même si tu ne chantes pas tous les chants, qu'importe. Il y a l'onction et le peuple de Dieu avait besoin de cela. Bien sûr, les chants, il a dit, mais ont été dirigés. Mais il y a des fois aussi, Dieu veut enlever un ou deux pour laisser la place à la louange, l'adoration, et même à une remise en question. Frères et sœurs, soyons sensibles. On a tous nos programmes, on a tous nos idées, on a tous nos vues. Et là de même, ils avaient leur programme, mais empêché. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et je crois que dans les temps que nous vivons aujourd'hui, où nous sommes accaparés par tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, est-ce que la voix de Dieu est encore audible, forte, pour que nous puissions l'entendre? Il y a de multiples voix, mais vous savez que Dieu parle et Dieu agit et il a dit « prépare-toi à me rencontrer ». Nous vivons, frères et sœurs, des temps difficiles. Mais là, nous voyons quoi ? C'est que, eh bien, l'Esprit de Jésus ayant été empêché. Alors ils descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, etc., secourneux, etc., et après ils ont cherché que c'était la volonté de Dieu. Nous voyons, eh bien, la disponibilité de ces cœurs, de ces serviteurs de Dieu. Ils ne se sont pas bloqués en disant, eh bien, niette, on arrête là, on perd son temps, on n'y va pas. Mais ils étaient toujours à l'écoute. Ils étaient toujours, eh bien, dans cette disponibilité de la direction du Saint-Esprit. Bien sûr, vous allez me dire, mais Dieu m'a donné une sagesse, une intelligence, une perception, certes. Mais tout cela doit être en conformité avec les perceptions que le Seigneur a pour son Église, pour son peuple. Et là, nous voyons, eh bien, c'est qu'ils sont allés à Troas parce que, eh bien, Paul a eu une vision. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler des visionnaires, mais Dieu veut nous donner des visions concernant l'avenir. Dieu veut nous donner, afin que nous soyons, eh bien, non pas dépourvus, mais au courant des choses futures. Mais comment cela ? Par une intimité avec lui, par une relation avec lui, par, eh bien, un contact permanent avec lui. Comment pouvez-vous, eh bien, connaître quelqu'un si vous n'avez pas d'intimité, de contact, si vous ne lui parlez pas? Et cela, eh bien, est aussi avec le Seigneur, au travers de sa parole. Dieu est souverain. Et Dieu savait que, eh bien, là, eh bien, à Troas, il y avait ce Macédonien qui avait besoin de la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'après, ils ne sont pas retournés en Mysie, en Bithynie, si. Mais la priorité, c'était cette chose-là. Que Dieu nous aide. La souveraineté de Dieu. Le troisième point, acte 26. Acte 26. Et là, bien sûr, Paul va dire à Agrippa, « Je suis heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Paul, n'est-ce pas, n'est pas un prisonnier ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a la crainte. Mais c'est quelqu'un qui va dire à ce roi Agrippa, « Eh bien, tu vas m'écouter. Hein? Parce que moi, j'ai des choses à te dire. » Frères et sœurs, n'ayons pas crainte de l'ennemi, celui qui nous craint. Le diable nous craint. Alors, il essaiera par tous les moyens, n'est-ce pas, que nous ayons la crainte. Non. Nous voyons, Paul, eh bien, il est là, bien sûr, il a été arrêté. Mais il ne fait aucun cas de sa vie, parce qu'il sait que, eh bien, étant l'envoyé, le Seigneur, eh bien, sera là pour l'aider. Et dans chacune des situations que nous pouvons affronter, où le Seigneur nous conduit, il est avec nous, nous l'avons chanté. Il ne nous abandonne pas. Ses regards sont fixés sur nous. Et ça, c'est quelque chose de précieux de savoir que le Seigneur veille sur moi. Alors, il va dire ceci, « Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent déclarer, que j'ai vécu en pharisien, sont la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos deux tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Nous voyons là un message d'évangélisation, hein ? Imaginez, frères et sœurs, le roi avec ses valets, ses sujets, la cour, et là, l'apôtre Paul qui va dire, eh bien voilà, moi j'ai vécu en pharisien et tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Jésus était en prison plusieurs desseins, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, témoin des choses que tu as vécues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Alléluia ! Frères et sœurs, Dieu n'a pas fini de t'étonner. Amen ! Amen. Dieu n'a pas fini de nous étonner. Si nous sommes dans sa volonté, il fera de grandes choses. Oui, il veut faire de grandes choses à travers de chacun d'entre nous, parce que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. C'est lui qui t'a choisi. Comme il dira à Ananias, je l'ai choisi. Comme il dira aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Est-ce qu'à un moment vous avez réalisé que Jésus, eh bien, toute une nuit, va prier son Père pour le choix des disciples. Bien que Jésus savait tout ce que ces hommes avaient dans leur cœur, il dira lui-même qu'il connaît tout, il sait tout, connaît les pensées. Il va choisir Pierre qui va le renier. Il va choisir, eh bien, Judas, qui va le vendre. Il va choisir Jean, qui va se sauver, etc., etc. Jésus savait. Il n'a pas pris des surhommes, hein. Mais il a pris des hommes de la même nature que nous. Mais il a dit, eh bien, je ferai de vous, eh bien, des témoins. Alléluia ! Frères et sœurs, laissons-nous pétrir dans les mains expertes du divin potier. Que ta volonté soit faite et non la mienne. La volonté de Dieu, c'est que tu sois à son image, que tu sois son représentant. Et nous représentons, frères et sœurs, ce message extraordinaire de la vie et de la consécration éternel, message glorieux qui au travers des siècles eh bien, est toujours d'actualité. On l'a chanté sans la croix, de la croix la grâce coule. Oui, c'est vrai. Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens, afin vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors il dira ceci: « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits, les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré avoir devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix: « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait raisonner. » Et il dira: « Je ne suis pas fou, etc., etc. » Le roi est instruit de ces choses et je lui parle librement. Et il dira aussi: « Eh bien, hein, je suis persuadé qu'il en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette d'après qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» Et Paul dira: « Je sais que tu crois. » Et le roi dira: « Mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, etc. etc. » Nous voyons là le témoin de Jésus. Alors, frères et sœurs, c'est vrai que dans ce chapitre 27 aussi, nous voyons quoi? C'est que Dieu, malgré sa souveraineté, il nous laisse libres. Parce que nous ne sommes pas des robots. Il nous laisse libres de recevoir, d'accepter ou, eh bien, de mettre de côté. Et dans le chapitre 27, nous voyons quoi? C'est que l'apôtre Paul, eh bien, va s'embarquer sur un navire. Verset 3, « Le jour suivant, nous abordons à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. De là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone, nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Le temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais aussi pour nos personnes. » Un prisonnier qui va, eh bien, prendre les dispositions nécessaires afin que cette navigation ne connaisse pas le péril. Mais nous voyons, la Bible dit quoi? Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakilon se déchaîna sur l'île. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vrai que dans le monde dans lequel nous sommes, les grands de ce monde se croient maîtres du destin de chaque pays. Mais ne l'oublions pas que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Se croyant maître. Bien sûr, il y a un petit vent. Vent de distraction. Vent, eh bien, qui veut, eh bien, nous étourdir. Une petite bise après les difficultés. Mais petit à petit, ce fut un vent impétueux qu'on appelle Eurakilon. Eurakilon, c'est un vent furieux, puissant, qui souffle de l'est ou de l'est-nord-est et qui va causer le naufrage, se croyant maître de leur dessein. L'homme n'est pas maître de son dessein. Et c'est là, nous voyons quoi ? C'est que, se croyant maître, alors bien sûr, ils vont lever l'ancre et ils vont côtoyer l'île de Crète, mais bientôt, ce vent va venir. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'ils vont jeter tous les agrès. Hein ? Mais, dans ce bateau, il y a un homme de Dieu. Et c'est vrai que l'apôtre Paul a aussi essuyé les bourrasques. C'est vrai qu'il a essuyé les vents. C'est vrai qu'il a essuyé la pluie, etc., etc. Mais, frères et sœurs, cet homme avait une relation avec son Seigneur. Et cela nous montre quoi ? C'est que dans le temps que nous vivons aujourd'hui, le monde est en ébullition. Mais l'Église de Jésus-Christ doit avoir une relation avec son Seigneur. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, car c'est de là que me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, de celui qui a créé les cieux et la terre. L'apôtre Paul était dans le même bateau et nous sommes dans le même bateau. Et la Bible dit que même il pensait perdre vie. Et c'est vrai que cela peut aussi nous arriver. Mais que se passe-t-il ? C'est que Dieu est au gouvernail de chaque chose. Dieu est au gouvernail. Il a permis ce problème pour montrer à ce centenier, à ce capitaine, à tous ces hommes, que c'est lui qui gère ça, que c'est lui qui a les regards. Et au verset 21, Paul va dire ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. » Et il m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu et qu'il en sera comme il a été dit. » Dieu se révèle toujours. Alléluia. Dieu, le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu que nous portons, c'est le Dieu qui te porte. C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui a ses regards sur le monde entier. C'est le Dieu qui a créé chaque chose. Et c'est vrai que Paul, eh bien, dans ce problème-là, a reçu de la part de Dieu cette confiance, cette affirmation. Et nous voyons quoi ? Et aussi cette révélation, c'est que ceux qui voyageaient avec lui seront sauvés, mais tandis que le navire va s'échouer. Frères et sœurs, le monde est prêt pour le jugement de Dieu. Mais nous voyons qu'au travers, eh bien, dans ce temps que le Seigneur nous alloue, le Seigneur désire que nous soyons ce sel de la terre. C'est vrai qu'on ne peut peut-être pas nous écouter, mais qu'importe, annonçons, apportons. Paul dira, voilà, vous deviez m'écouter. La prédication de la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. La prédication de la croix. Et la croix reste toujours debout, Parce que c'est à la croix que le chemin commence. C'est à la croix. Abandonne ta vie à la croix du calvaire. Tel que tu es, Seigneur, je viens à toi. L'univers, frères et sœurs, est sous les ordres de Dieu. Croyez-vous que Dieu ne voyait pas, eh bien, cette petite coquille de noix qui était ballottée, qui recevait, eh bien, tous les effluves de la mer et du vent? Dieu voyait. Et même si, eh bien, tous ces prisonniers invoquaient chacun leur Dieu, Dieu entendait et Dieu connaissait que là, au milieu, il y a son serviteur. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre des oiseaux. Et si un tombe, il le sait. Quelle attention, comme nous l'avons chanté, à ce Créateur extraordinaire pour chacune de nos vies. Alors c'est vrai que ce matin, peut-être tu passes par un chemin difficile, incompréhensible. Tu te poses de nombreuses questions, mais sache une chose, que étant enfant de Dieu, lui avons donné sa vie, lui avons consacré sa vie, il est celui qui te dirige. N'aie pas un regard de crainte, mais regarde à celui qui est assis sur son trône. Certes, un jour il a été défiguré. Mais aujourd'hui, il est resplendissant de gloire, alléluia. Un jour, eh bien, il a été maltraité. On lui a posé une couronne d'épines. Mais quand il viendra, ça sera une couronne d'or, alléluia. Parce que celui que nous servons, il est ressuscité, amen. Et le diable essaiera par tous les moyens de nous montrer, eh bien, que Dieu ne s'intéresse pas, que Dieu ne s'occupe pas. Mais c'est faux, parce qu'il est le père du mensonge. Jésus lui-même a dit, « Je suis la vérité, dira Jésus. » Mais lui, c'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un voleur. Il vient pour voler. Et Paul, que va-t-il faire? Il va se lever au milieu, eh bien, tous ces personnages, ils étaient combien? Plus que ce que nous sommes ici, hein? 276 personnes. Pendant 14 jours, ils n'ont pas mangé, ils n'avaient pas le temps, hein? Peut-être même pas d'appétit, peut-être. Imaginez tout ce qui se passait. Et Paul va dire, maintenant, ça suffit, stop. Parce qu'il avait reçu de la part de Dieu, eh bien, cette confirmation. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être, eh bien, cette petite barque, cette coquille, ballottée au gré des vents de ce monde. Mais le Seigneur veut être dans ta vie. Et même si tu es ballotté, tu ne connaîtras pas le naufrage. Tu ne connaîtras pas, eh bien, le naufrage et même l'anéantissement, parce qu'il veut te mener au port désiré. Il veut te conduire. Alors, ce matin, Seigneur, merci parce que tu es au gouvernail de ma vie. Merci parce que, eh bien, même si je ne comprends pas, même si je ne réalise pas, je sais que tu es au contrôle de tout et que même si tu permets cette épreuve, cette difficulté, tu veux m'amener là où tu le désires. Car ton plan, le plan du Seigneur est pour te bénir. Mes frères et sœurs, souvent, c'est vrai, par notre endurcissement, nous voulons faire notre volonté. Alors, bien sûr, il nous laisse. Et comme ce navire, c'est la dérive. Mais comme son amour est plus grand que notre endurcissement, il nous amènera là où il désire, dans sa paix. C'est lui qui tient nos vies. Il tient ma vie. Paul exhorta. C'est formidable de voir dans cette situation un homme qui va exhorter, qui va eh bien apporter un point de courage. Parce que, frères et sœurs, la tempête était toujours là. Mais Paul va les exhorter, Paul va leur donner une lumière, une lueur. Et Paul va leur dire, voilà ce qui va se passer, mais mangeons. C'est formidable de voir là une réunion extraordinaire dans la tempête d'évangélisation. Vous savez, souvent, nous on pense que tout doit être planifié, mais Dieu agit à sa guise. Dieu agit comme ça lui plaît. Et au milieu de la tempête, imaginez que Pierre, eh bien, Paul va commencer à manger. Et tous ceux eh bien, qui étaient là vont commencer à venir. La crainte va s'estomper et ils vont se réjouir, ils vont parler. Et Paul sera eh bien, cet homme central qui va les conduire. Parce que quand ils vont échouer, c'est sur une île. Mais la bénédiction de Dieu sera avec lui. Même si les gens ont des pensées préconçues. Hein. On n'a pas le temps de lire la suite, mais il y avait là une vipère qui s'est accrochée. Tout le monde, ah, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pouf, il est tombé. Oh, mais c'est un dieu. Où? Oui. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de glorieux. Ne l'oublions pas, frères et sœurs, tout lui est soumis. Alors mettons notre confiance en lui. Il ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. On ne peut pas tromper Dieu. Souvent, c'est vrai qu'on veut jouer hein, à cache-cache avec Dieu. Alors je vais vous lire un dernier passage. De montrer qu'il sera désavantageux de tromper Dieu. Un homme ne peut tromper Dieu. Même dans le plus grand secret, Dieu voit. Parce qu'il a dit un jour, les choses cachées seront mises à découvert. Alors dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, Premier livre des Rois, chapitre 22. Nous lisons ceci. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Un homme intelligent, hein ?« Consulte. » Puis Josaphat, voilà. Alors je te prie, consulte. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Pouf ! Ouf ! 400. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ? Et où dois-je y renoncer ? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus aucun des prophètes de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. » C'est qui ? C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Miché. » fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Oh, imaginez un peu la situation, hein. Revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cordes de fer. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cordes tu frapperas les Syriens jusqu'à la détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Il veut l'influencer, hein. Vous voyez, la tactique du diable, hein. Oui, oui. Tu sais, hein, les 400, ils ont prophétisé du bien. Toi, de même. L'influence. Par qui es-tu influencé, hein? Oui. Qui est-ce qui t'influence? Pierre, Paul, Jacques? Ou le Saint-Esprit? C'est ça. Alors, bien sûr, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, qu'est-ce qu'il dit, Michée? L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira, point à la ligne. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Ouf. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Michée et emmène-le vers Ramoth, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, « Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. » Voilà, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « Certainement, c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs de chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, chacun sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie en l'enterrant, etc., etc. Nous voyons, frères et sœurs, qu'on ne peut tromper Dieu. C'est vrai que souvent on pense que la multitude a raison. 400 prophètes. Où ? Et nous voyons que le roi Josaphat dit, mais il n'y en a pas encore un. Monsieur, mais tu sais, lui, hein, il ne raconte que toutes choses négatives. Fais-le venir. Fais-le venir. La relation avec Dieu est primordiale. Michu aurait pu être pris dans ce tourbillon, influencé par le serviteur qui est venu le chercher, mais aussi influencé par le nombre. Mais il a dit une chose, frères et sœurs, très importante, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. C'est vrai que l'annonce est une annonce, eh bien, dramatique. Est une annonce, eh bien, de défaite. Mais pour le roi Achab, ainsi que le roi de Josaphat, avec leurs habits royaux, ce n'est pas la défaite qu'ils devaient entendre, mais la victoire. Mais ça, ce n'est pas le concept de Dieu. Alors, bien sûr, mise en prison. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont mis en prison. Mes frères et sœurs, même dans la prison, il y a le rayonnement de la gloire de Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors bien sûr, ce roi va prendre un stratagème, il va se déguiser. Même nos déguisements, Dieu voit au travers des déguisements. On ne peut, frères et sœurs, jouer, excusez-moi, la comédie devant Dieu. Dieu est un feu dévorant. Alors bien sûr, le roi de Syrie va donner cet ordre à ses généraux. Et quand ils vont s'approcher du roi de Josaphat, Josaphat va crier, ils vont faire demi-tour. Mais, la Bible dit, un archer au hasard, qui a dirigé la flèche ? Le hasard fait bien les choses, hein. Au défaut de la cuirasse, la flèche l'a transpercée. Et le roi Achab est mort. Le roi Achab est mort. Il a vu la bataille, mais il ne faisait plus partie. Alors, frères et sœurs, cela nous montre quoi ? Que dans les temps que nous vivons, même si nos stratagèmes pensés être efficaces, pour Dieu, rien n'est caché. Rien n'est caché. Il est souverain. Et Achab va succomber à ses blessures. Certains diront, bien sûr, c'est une malchance. Mais ce que Dieu a dit par l'intermédiaire de son prophète s'accomplit. Toute parole de Dieu s'accomplira à la lettre. Toute parole. Jésus a dit, ciel et terre passeront, mais ma parole demeurera. Ma parole. Et frères et sœurs, la sécurité du chrétien, de vous comme de moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le monde va s'écouler, mais cette parole demeurera parce que la parole est Dieu. Quand tu lis la parole, c'est Dieu qui te parle, parce qu'il est la parole. Jean 1. On a voulu, eh bien, mettre la parole au poteau. On a voulu la faire taire dans le tombeau. Les soldats le cachaient. Mais la parole ne peut rester immuable. Ne peut rester, frères et sœurs, cachés. Elle sort, elle est vivante. Et le troisième jour, comme Jésus a dit lorsqu'il était sur la terre, « Je ressusciterai, alléluia !» Ton Seigneur est ressuscité, il n'est pas mort, il est vivant. Bien sûr, Michel a connu la prison, mais il a annoncé la parole de Dieu. Il est souverain. Achab était responsable entièrement de ses choix qu'il a faits. Dans Ésaïe, au chapitre 46, verset 10, il est écrit ceci. Ésaïe 46, 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle, dit Dieu, de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Et il dira aussi, écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de droiture, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Je suis Dieu, j'annonce, j'exécute. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est active, elle est vivante. Toujours dans Ésaïe chapitre 48, le verset 11 nous dit ceci. Ésaïe 48, verset 11 à 19. Je changerai. 48. Pour l'amour de moi, je veux agir, dit Dieu. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors Dieu dira, écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Et au verset 17, toujours, Ésaïe 48, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour le bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Et ce matin, Seigneur, merci, parce que, comme il le dira, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Achab est mort. » Mes frères et sœurs, la gloire de Dieu s'est manifestée. Enseigne-moi, éduque-moi, instruis-moi, conduis-moi, car Dieu ne fait rien au hasard. Et il veut, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, nous révéler les choses futures. Amen. Il maîtrise chaque détail de ta vie. Alléluia! Alors ce matin, entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout ce dont j'appelle le mien. Ce matin, Seigneur, eh bien, tu connais ma vie. Tu connais mon concept. Tu connais mes programmes. Tu connais chaque chose. Mais Seigneur, merci, parce qu'un jour tu es venu me chercher là où j'étais. Et ce matin, tu veux m'amener dans une relation plus étroite avec toi, sachant que les temps que le monde vit et que l'Église vivra seront des temps difficiles. Pour le monde, certes, mais pour l'enfant de Dieu sera, eh bien, ce prélude de ta gloire. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Alors ce matin, Que la grâce de Dieu nous accompagne, que la grâce de Dieu nous saisisse et que le Saint-Esprit soit toujours souverain sur nos vies. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est extraordinaire. Et même si nous sommes encore au balbutiement, Seigneur, merci parce que tu veux nous y conduire plus loin encore. Seigneur, tu connais les influences négatives autour de nous, comme Miché, comme tant d'autres. Mais Seigneur, merci parce que pour Miché, pour Paul, pour tous ceux qui ont passé dans le temps, Seigneur, tu as été toujours leur soutien. Tu as gardé Miché. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un livre caché, mais tu es celui qui veut se révéler. Alors ce matin, fais tomber les écailles de nos yeux, que nous puissions te voir dans toute ta clarté, dans toute ta beauté, dans toute ta royauté, dans toute ta seigneurie, dans tout ce que tu es. Seigneur, merci parce que tu veux nous mener plus loin avec toi. Et ce matin, nous ne voulons pas compter sur nous, mais compter sur toi. Parce que tu n'es pas celui, eh bien, qui nous laissera choir, mais au contraire, tu es celui qui sera tous les jours avec nous, comme tu l'as dit, jusqu'à la fin des temps. Que ta grâce et que ta paix, Seigneur, repose sur nos cœurs et que tout esprit de crainte, tout esprit, Seigneur, ne venant pas de toi, tout esprit, Seigneur, eh bien, de dissolution, soit banni, afin que le Saint-Esprit s'empare de chacune de nos vies. Oh, brûle, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire. Consume, afin que l'Éternel soit notre bouclier. Seigneur, tu connais les besoins de mes frères et de mes sœurs, de chacun de nous. Merci, parce que tu es suffisant à pallier à toutes nos détresses, à toutes nos faiblesses. Sois-en béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin